penser ma vie à me battre.
Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal.
J'ai passé ma vie à me battre.
Mesdames, messieurs.
J'ai passé ma vie à me battre.
Mesdames, messieurs.
Mesdames, messieurs.
J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde.
Soyez-y, mesdames, messieurs.
Mesdames, messieurs.
Mesdames, messieurs.
60 minutes de lutte.
J'ai passé ma vie à me battre.
Avec Marc Blondin.
Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom est Sam GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958.
Self-proclaimed legend qui n'est pas en vacances. Comment ça va de bronzer?
Hey, pas pire, le tan, le bronzage est très bon. On a eu du beau temps, beaucoup de plaisir.
T'as pas mis de casquette, hein? Ton front, il est rouge.
Ouais, je sais. Pour ceux qui voient ça sur YouTube, là, j'ai quelques rougeurs. Ça devrait tourner au brun, mais en ce moment, j'ai plus de rougeurs que de brun.
Bon, que veux-tu? Ouais. C'est ça, de la peau de cochon.
Ouais, hey, t'es bien langue sale de me traiter de cochon. Hey Marc, perdons pas de temps parce qu'on a une émission très, très chargée encore cette semaine. Parle-moi de Simmania 3, on est rendu où avec ça?
Écoute, les 6 combats ont été confirmés, signés. Alors, tous les lutteurs sont là. L'affiche devrait sortir dans les prochains jours et la diffusion va être faite sur les réseaux sociaux. En plus de ça, bien sûr, j'ai reçu le menu des entrées que les gens vont pouvoir commander. Il me reste à mettre des noms de prises de lutte ou choses dans ce style-là de l'entêté. On vous rappelle que c'est dimanche, le 24 septembre, à compter de 19h, et j'ai signé le Destructateur Michel Leroy Destro pour le Destro Show des épreuves de force qui auront lieu en pré-événement à 18h45. Fait que c'est je l'ai signé la journée que tu t'es pas présenté au 5 à 7 avec Max Bacon.
Bye-bye!
C'est comme Max, ça.
Ben oui. Hey, si je te chante la chanson suivante. Et si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu. T'as pensé à qui?
Ma femme qui chante ça à journée longue.
Hey, on la salue, Jazz, c'est sûrement à l'écoute. Mais non, Mario Pelcha et Simmania ben oui. 4.
Je ne sais pas si j'en ai parlé sur le podcast Handsome, mais avec mes amis Stephen Finn et Nathalie, son ex-épouse, qui ont perdu un fils par le sarcome, qui est un cancer. Et c'est la même chose pour la sœur de Mario Pelcha. Et moi, j'ai été visiter le vignoble et je leur ai proposé de faire un événement Simmania qui serait possiblement au printemps prochain, mais corporatif, que des tables VIP. Alors, on est là-dessus, on travaille là-dessus très fort. J'ai également parlé avec les gens du hockey mineur d'une grosse section de Montréal également pour le printemps prochain. Fait que ça bouge beaucoup dans le monde de Simmania et j'ai très hâte à Simmania 3 pour replonger. Mais là, je te dirais qu'avec l'arrivée du mois d'août, là, on clenche.
Oui, puis écoute, tu me parles de travailler très fort. Est-ce que tu as travaillé un peu pour Bound for Glory qui aura lieu en octobre prochain d'Impact Wrestling?
Bien sûr. J'ai parlé avec quelques commanditaires. J'ai fait un Zoom où on devrait avoir des nouvelles demain, lundi justement, pour un bon commanditaire pour nous envoyer à Chicago, la ville des vents, le 21 octobre prochain pour Bound for Glory. Et j'ai également parlé avec mon chum PCO qui reprenait les activités. Ça lui a fait du bien, une petite pause. Et il m'a même donné une commission d'y aller chercher des patins à Saint-Eustache. Il patine! Il veut faire partie de la classique KR l'année prochaine.
Ah oui, il veut remplacer un SMGF comme lutteur en service.
Oui, et moi, tu m'en as pas parlé, mais j'ai fait une sacrée bonne job. Mon équipe a perdu, l'équipe du Clair, j'étais le coach. Quand j'ai dit à Duclair, t'es mieux de backer, sinon je te bench, il a vu que M. Fun International, il y avait de la poigne.
Oui, le Michel Bergeron des pauvres, Marc Blondin. Hey Marc, on a parlé de vacances. Bam, 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 voilà tout. C'est le temps des vacances. Hey, mettons la table.
Toi, tu vas dire une affaire. C'est sûr qu'au Mexique, tu es allé à toutes les soirées karaoké. J'ai même écouté notre show de Slammiversary.
Hey, on chante.
T'arrêtes pas de chanter. Seigneur, c'est quoi? Tu veux te découvrir? Tu veux avoir une nouvelle job?
Non, j'ai pas le talent pour être chanteur, mais.
Bon, je suis content que tu le dises.
Je voulais mettre la table.
The table is putting.
Pour mon avis, Mathieu Lavigne Lave, que tu as en entrevue, qui va nous parler des lutteurs qui avaient des personnages de job de la vraie vie.
Donc, qui sera en vacances présentement?
Exactement, exactement. Donc, j'ai très hâte d'entendre ça. On y va tout de suite avec l'entrevue que tu as réalisée avec mon ami Mathieu Lave Lavigne.
Il y en a qui disent que des fois, je pousse ma loque. Tu sais, c'est les vacances. Et moi, je communique avec Mathieu Lavigne, Lave, pour lui dire, écoute, je sais que c'est les vacances. En plus, c'est les vacances de la construction. Moi, m'a te faire travailler, mon Lave. Et j'ai dit, ça serait le fun de savoir, vu, encore une fois, les vacances de la construction, y as-tu eu beaucoup de personnages dans le monde de la lutte professionnelle qui ont représenté des jobs, des gars qui serait peut-être en vacances au Québec présentement. Alors, il est là, Lav, il a fait un travail de moine, 77 heures de recherche. Wow!
Ben, au prix où tu me payes, Marc, ça ne me dérange vraiment pas de travailler les heures supplémentaires pour toi.
Oui, j'ai vu ça passer, ça. Ça m'a empêché à moi de partir en vacances, mettons. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui, mon Lav?
Ben, j'ai aimé ta question parce que... Déjà, dans l'idée de la lutte, dans l'idée du kayfabe de la lutte, avoir une job, moi, je trouve que ça va complètement à contre-courant de l'idée de ce que c'est censé être un lutteur professionnel. Moi, je suis censé m'investir dans quelqu'un qui est un gladiateur, qui est une personne plus grande que nature, que je suis censé vouloir payer pour regarder se battre. Mais je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir une job on the side quand t'es un lutteur. Parce que moi, je comprends pas. Une gimmick, c'est un mind game. Tu rentres dans le ring, tu veux faire tu veux jouer dans la tête de ton adversaire. Puis là, tout d'un coup, t'as un gars comme T.L. Hopper qui rentre puis qui est habillé en plombier avec une camisole remplie d'algues puis de cochonneries qui vient du drain à quelqu'un. Il rentre avec son siphon de toilette. C'était le Dirty White Boy à la Smoky Mountain Wrestling, mais il faut croire qu'à la WWE, on ne l'a pas vu comme ça. Fait, je ne sais pas à quoi ça peut servir d'avoir un job dans le milieu de la lutte. Imagine si à la UFC, tu as quelqu'un qui rentrait en cuisinier avant son combat. Je pense pas que ce serait vu de la même façon. Fait que la lutte s'en permet
un peu à ce niveau-là. Je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais il mangerait une volée.
Ah, tu vois, je ne suis pas ici pour rien. Fait que vite, vite, tu sais, j'ai pensé à... on avait discuté un peu l'idée du prolétaire, du col bleu à la lutte. Ça serait probablement Dusty Rhodes, le fils de plombier, représentait un peu le every American man, tu sais, le gars bien ordinaire qui pourrait être au Texas, ouais, travailler sur un camion. Puis... Fait que lui, il est probablement en vacances en ce moment.
Ouais.
Mais sinon, ça va juste... ça va pas bien après Dusty Rhodes. Parce que là, je pensais à un gars comme Duke de Dumpster Drossy, le vidangeur, rentrer avec sa poubelle, même pas une poubelle avec laquelle tu peux frapper, plus un container de plastique. Isaac Yankum est probablement en vacances en ce moment, le dentiste en 1996. On a Bob Thurman Sparky Plug Holly, le pilote de course.
Oui.
Je comprends pas. Admettons que tu es un pilote de course ou un dentiste. Moi, je pense au salaire que tu fais probablement à temps plein. Pourquoi tu irais sur la route 300 jours par année pour essayer de gagner une ceinture? Tu es un pilote de course. Quand est-ce que tu as le temps pour faire de la course? Quand est-ce que tu as le temps pour te préparer à être un gladiateur? Je sais pas pourquoi je paierais pour voir un pilote de course essayer de gagner une ceinture.
En tout cas, s'il gagne une ceinture, ça va se faire sur des chapeaux de roue.
Wow! Je sais pas qui est le plus préparé entre toi et moi.
Je ne sais pas, tu me prends dans une fin de journée où j'ai juste hâte de déguster une bonne bière et fumer un cigare. Fait que il n'y a pas de problème. Mais toujours on est d'accord qui ont tout. Que c'est quand même des personnages, mais c'est vrai que ça peut être des personnages mal choisis.
Ben, c'est des personnages mal choisis. Tu penses à Henry Godwin, le fermier. Je ne sais pas il y a combien de tes auditeurs qui ont une ferme, qui ont déjà travaillé sur une ferme, mais t'as pas le temps d'être lutteur quand t'es un fermier. En plus, lui, il se pointait directement avec ses cochons puis avec son purin. Je comprends pas comment tu peux avoir cette job-là puis vouloir aller te battre dans un ring le soir. Il y en a un que j'ai vu dernièrement aussi à Impact, qui s'appelle Building. C'était Trey Miguel dans leur gimmick de Impact où ils faisaient des spectacles en mode années 80, un peu lutte locale, un peu lutte weird. Il y avait avec lui, il y avait Gymnasium puis il y avait Jack Hammer. Ça, c'est des vrais gimmicks de construction. Eux sont clairement en vacances. Mais Building, je sais pas, c'est-tu moi qui l'ai rêvé ou c'est un vrai personnage de l'histoire de la lutte, Building?
Écoute, il y en a un que je me souviens dans le temps de la WCW. C'était pas Building, mais il me semble son nom, c'était The Wall.
La gimmick de The Wall, je pense, c'était mettre le monde à travers des tables.
Je m'en souviens pas de ça, par exemple.
Ouais, c'est un gars que j'ai vu souvent à Thunder. Il passait toujours le monde à travers des tables. Il avait zéro personnalité. Autre gimmick, je sais toujours pas si Building est une hallucination. Mais sinon, on a Matt Stryker, le professeur, qui est en vacances en ce moment. Il y a IRS, le gars des taxes.
Lui, il était détesté. C'est peut-être, à part, t'as nommé Dusty Rhodes, là, mais à part Dusty, ouais. IRS, c'est possiblement un des plus connus, hein, non?
Oui, en termes de job, oui. Puis, c'est tellement précis comme gimmick, celle de IRS, que je me demande si c'est pas tiré de la vraie vie. Parce que Vince McMahon avait cette habitude-là de faire des personnages de vilains avec un peu les choses qui l'emmerdaient ou qui le faisaient chier dans la vie. Excuse-moi si je pouvais pas dire ça à la radio. C'est un peu comme Smash, qui est devenu le Repo Man, un voleur. À partir du moment où il est devenu syndicaliste dans la vraie vie, on lui a affublé une gimmick de voleur. Fait que je sais pas à quel point IRS peut pas être comme une vengeance du fait qu'il était tanné de se faire poursuivre par des gars des taxes de l'IRS aux États-Unis. Sinon, vite, le Boss Man, qui est un gardien de prison.
Oui, Simon, Big Boss Man.
Ben oui, Simon Dean, le coach de vie au milieu des années 2000, qui rentrait avec son programme, le Simon System, pour te remettre en forme, te remettre sur le droit chemin.
Lui, il avait aidé Sly, justement, aller dans le droit chemin. T'es un bon ami à Sly.
On lui demanderait comment il va Simon Dean aujourd'hui. Au Québec, j'ai pensé à quelques gimmicks, parce que tu parles de Sly, j'ai pensé à des gimmicks québécoises de job. On a Mitch Surfer, qui est un surfeur professionnel.
Oui.
Il fait pas de surf, mais c'est un surfeur.
Ben, il est professionnel, mais il fait pas de surf.
Frank Milano, le pilote de chasse, je l'ai pas vu en avion encore, mais c'est un pilote de chasse. Puis sinon, on a Martel, Rick Martel, qui faisait du mannequinat.
C'est vrai. The model Rick Martel.
Ouais, on a déjà quand même une gimmick qui se rapproche peut-être un peu plus de pourquoi il serait un gladiateur ou un lutteur. Fait que celui-là, je le permets. Mais tu sais, on niaise, mais il y a une gimmick de job dans l'histoire de la WWE qui a vraiment, vraiment fonctionné. Puis aujourd'hui, il y a personne qui se questionne. C'est une des meilleures gimmicks de l'histoire de la lutte. Je sais pas si tu me vois venir.
Non. Ben oui. Undertaker. Ben oui.
Oui, l'entrepreneur de pompes funèbres avec des pouvoirs magiques qui tournait ses promos dans des salons funéraires, dans des cimetières, dans son atelier où il fabriquait des cercueils. T'en veux une gimmick de job qui a fonctionné? Ben l'Undertaker, ouais. C'est la preuve que tu peux avoir une gimmick de job à la WWF ou à la WWE.
Mais c'est quand même pas évident. Tu sais, t'en as nommé une, puis t'en as nommé une quinzaine que...
rendu là, c'est peut-être plus au crédit de Mark Calloway d'avoir fait réussir une gimmick d'entrepreneur de pompe funèbre.
Écoute, Mathieu, un gros merci. C'était le fun d'entendre ça, puis de faire un clin d'œil à tous ceux et celles qui sont en vacances présentement au Québec. On te remercie. J'espère que toi aussi, tu vas prendre des vacances bientôt, j'espère.
Ben, si c'était le dernier dossier de recherche vraiment épuisant que tu avais pour moi, je vais peut-être prendre quelques jours.
Repose-toi. Merci beaucoup, Lav.
Merci, Marc. À la prochaine.
Dans mon livre « La grande histoire de ma petite vie », tu pourras connaître en détail les 6 décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. Sim.shop 24,95 plus les frais de poste.
Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Vous écoutez Soyez-y, mesdames, messieurs, sur le réseau BPM Sport.
On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. On est toujours dans la thématique vacances et on va aller sur le côté des croisières. Marc, tu as fait des croisières, toi, dans ta vie?
Quelques-unes, un total de 24.
Wow, jet set!
Et toutes les croisières que j'ai faites étaient sur un bateau.
Wow, incroyable! Les auditeurs doivent tomber en bas de leur chaise en entendant ça.
C'est sûr, c'est sûr. C'est mon chum Red Goyer qui me disait toujours ça. T'en vas en croisière, tu vas-tu ces bateaux? Fait que là, je viens de le mettre over.
Mais on le salue, Red Goyer, il est sûrement à l'écoute.
J'espère que ça sera un commanditaire, ça.
Oh, ça serait bon, ça. Hey, on vient de le plugger à la radio. J'espère, Red Goyer, que tu es à l'écoute.
On appelle ça les portes de garage Garaga, les industries André à Vaudreuil-Dorion. T'en veux-tu une plug? En veux une.
Lave-la. Hey, puis donc, dans le prochain bloc, deux chroniqueurs. Jean-François Kelly, qui va nous parler des croisières de Jericho qui sont mixées croisières et lutte.
Ben oui. Tu sais, moi, j'en ai fait 24, mais je n'ai jamais eu la chance de vivre ça. Et lui, il l'a vécu. Je pense qu'il a fait la première. Il l'a fait avec Pat Patterson. Ouais. Alors, il a vécu ça et il nous donne plein de détails que je ne savais pas. Alors, j'ai tombé vraiment sur un sujet avec lui là, qu'il connaît fort bien.
Donc, rapidement, tu as Mike Bailey qui va y participer à la croisière de Jericho. Et j'ai vu tout récemment que Jacques Rougeau aussi de Mountie va être là pour la croisière de Jericho. Donc, très hâte d'entendre l'entrevue que tu as réalisée avec Jean-François Kelly, la légende vivante. Mais avant ça, tu as parlé avec Drénuc.
Oui, l'homme qui a un alphabet de 44 lettres, dont une vingtaine de R.
Ouais, et de quoi il nous parle de Drénuc cette semaine?
Ben, de tout ce qui se passe, il y a plusieurs spectacles de lutte les 5 et 6 août prochains. Et comme c'est un nouveau Campy Valencien, si lui va en croisière, ça va être sur la baie Saint-François, sur un radeau, parce qu'il n'y a pas eu moyen d'aller plus loin.
Hey, que t'es langue sale. Donc, sans plus tarder, on débute le bloc chroniqueur avec Drénuc.
On retrouve notre ami, le mouton noir de la lutte québécoise, le nouveau Campy Valencien, André Terrien, mieux connu sous le nom de Drénuc. Comment vas-tu, jeune homme?
Je vais très bien, Marc. Et Campy Valencien avec un C majuscule, je l'adore, ma nouvelle ville.
C'est bon, c'est bon. Tu as juste à dire que tu es chum avec Marc Blondin, puis ils vont t'escorter pour que tu sortes de la ville.
Good, ils nous donnent tout.
Mon ami André, il y a beaucoup d'événements qui s'en viennent le week-end prochain, le 5 août. On a les gens de Granby qui pourront voir en action l'Alliance de lutte canadienne.
Oui, plus précisément au Camping Bonjour. Donc, bonjour. C'est un rendez-vous annuel au Camping Bonjour.
Bonjour.
AAC présente un événement qui va être dans les alentours de 19h. Qui va avoir sur place, mais celui qui dérange tout le monde, la franchise Brad Alexis. Beast King ou FTM va être sur place. Donc,
quand même, oui.
Puis, il y a les frères Stark qui vont être sur place également et Mr. Toronto himself, MTH.
Donc, André, souvent, quand on mentionne le mot camping, dans la tête des gens et souvent dans la mienne, c'est pas les meilleurs qui sont là. Mais là, avec ce que tu viens de me nommer pour Granby, je dois me tromper souvent.
Je vais dire que tu te trompes souvent, Marc. On va dire que peut-être là, 10-15 ans, c'était pas les meilleurs. Mais là, depuis que tout le monde est rémunéré, tout le monde veut sa part de gâteau. Donc, non, les spectacles dans les campings, même moi, je me déplace, sont très bien relevés. Puis le talent, il est là.
Parlant de toi, quand tu te déplaces à la microbrasserie Barabas, qui semble-t-il a une surette complètement débile.
C'est la meilleure sure aux framboises, Marc. Je l'ai même, en bon français, plugué dans mes veines. Mais oui, la Beauharnois Championship Wrestling ira à la brasserie Barabas le samedi 5 août de 15 à 17 heures, où on présentera quatre combats, dont le championnat national qui est détenu par le Jason Petitclair tout récemment, et aussi notre champion, le dernier guerrier, Jason Gray, va être sur place.
Bon, il y a la IWS Hardcore Heat au Bain Mathieu.
Oui, ce samedi, 5 août comme les autres, au Bain Mathieu, IWS présente Hardcore Heat. Jusqu'ici, ça va être une carte qui va être relevée, comme déjà dit, mais le combat d'envergure jusqu'ici, c'est Matt Viviani, l'aspirant numéro 1 au championnat canadien, détenu par Green Phantom.
André, IWS, ils n'ont pas fait de quoi la semaine passée ou là, deux semaines?
Oui, hein, ça roule. Il était déjà à l'Olympia pour présenter l'événement Scarred for Life en compagnie avec la GCW des États-Unis.
Oui, puis il n'y a pas eu énormément de monde, moins de 400 personnes. Est-ce que c'est bon quand même?
C'était très bon parce que avec tous les festivals, Marc, qu'il y a à faire à Montréal, il y a même Gabe Sapolsky le lendemain dans le séminaire qui disait que lui, il se promenait avant l'événement. Puis il comprend si le monde choisisse autre chose que de la lutte s'enfermer, là, ce qui fait comme 35 degrés à l'extérieur. Mais le plaisir, il était au rendez-vous. Et nous, de notre côté, comme on ne pouvait pas se déplacer, mais IWS est maintenant rendu sur Fight Plus. Donc, c'est un événement qu'on peut regarder à la carte.
Oui, je pense que c'est ça que tu avais choisi, toi, avec des amis.
Oui, une bonne dizaine avec viande et piscine.
Oh! Faut pas amener la viande dans la piscine, par exemple.
Non,
faut pas faire ça. André, la NSPW, elle, s'en va encore plus vers l'est. Elle s'en va à Rimouski, la ville de mon ami Éric Plourde.
Et du lutteur natif du coin, Tom Leblond. C'est plus précisément à l'expo agricole de Rimouski, où dans l'après-midi, la NSPW présentera leur événement, dont le championnat NSPW, détenu par Kevin Blanchard, affrontera le gars du coin, Tom Leblond.
Ah oui, il faut toujours taille locale, ça c'est certain. Hein?
Oh, il va avoir le sixième joueur en arrière de lui, là, ou le dixième ou le douzième.
Écoute, en tout cas, il va avoir le joueur local en arrière de lui. Le lendemain, il y a K-Mania. Ça, c'est aussi la NSPW, non?
Non, c'est comme leur petit cousin. C'est la FCL, mais la NSPW région de la Mauricie. Présente, c'est ça, à Bécancour, au quai en fête, parce que tout l'été, le quai est en fête à Bécancour. Présente, je crois que c'est leur deuxième événement de lutte. Cette fois-ci, c'est K-Mania, dont le champion Mauricie, Cowboy Steve Boutet, sera en action. Et il y a un combat pour les poids lourds, Marc, Robbie Hennessy et Angie Sky contre Azael et Max Lemay. Il y a plus de 700 livres dans l'arène. Ça va brasser, comme on dit.
Tu me parles de Max Lemay. Est-ce que tu as eu la chance de voir son entrée dans le personnage de Bam Bam Bigelow sur Crave?
Oui, j'ai vu ça à Dark Side of the Ring. Puis,
je ne l'ai pas vu encore.
Non, il a très bien joué son rôle. Puis même aujourd'hui, il a discuté avec un des fils à Scott Bam Bam Bigelow. Et même son fils l'a louangé pour dire de copier mon père à la lettre. Non?
Bon. Écoute, c'est ça, c'est les événements d'été. S'il fait trop beau, les gens ne veulent pas rentrer à l'intérieur. S'il pleut, ben souvent c'est reporté ou annulé. L'été, c'est risqué pour des promoteurs, n'est-ce pas?
Très risqué. On regarde toujours des fois la température 5 jours en avance. On va dire que c'est les risques du métier parce que tout coûte de l'argent. Un chapiteau, ça coûte vraiment des sous. Donc, lorsque la température est quand même au rendez-vous, le plaisir l'est aussi, Marc.
Si tu vas dans un festival où il y a déjà un chapiteau qui est loué pour tout le festival et que tu peux installer le ring en dessous, comme ça nous est déjà arrivé à Valleyfield il y a quelques années avec la TOW, dans le cas d'un festival country qu'il y avait eu à Valleyfield. Bien là, il n'y a pas de frais supplémentaires puis ton événement a lieu. Mais s'ils sont obligés de louer un gros chapiteau pour le show de lutte, ça risque de ne pas marcher. C'est pas évident.
Non, exactement. Puis parlant de chapiteaux, mais il y en avait un à Saint-André-Avelin le 23 juillet dernier. Puis encore là, c'était un gala réussi. Puis faisait chaud, par contre, dans la tente.
Oui, c'est ça. Bien, si c'était à un moment donné, tu n'as pas la dose parfaite, à moins que tu sois de Sibmania 3 le 24 septembre prochain à la microbrasserie L'Entêté. Les billets sont en vente au pointdevente.com. Alors, j'ai fait ma plug. André, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne semaine de lutte indie au Québec. Et on se reparle la semaine prochaine, mon ami. Comme dirait l'autre, si Dieu le veut.
Oui, bonne fin de semaine. Moi, je vais dire bonne bière, bon golf, Marc.
Merci. On reçoit la légende vivante Jean-François Kelly sur le CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs, après une semaine de vacances. Wow!
Hey, c'est incroyable, là. Hey, ça fait du bien, je me suis reposé, parce qu'une chronique comme celle que je vais faire aujourd'hui, ça prend quand même 40 heures de préparation. Les gens ne savent pas, mais ouf, ça gobe de l'énergie, hein?
Oui, je le sais, parce que c'est toutes des vacances payées que je vous donne. Fait que ça, t'as payé, puis en plus, t'es pas là, j'ai de la misère, mais regarde, c'est comme ça.
Mais tu me payes 100% de mon salaire de zéro, c'est quand même incroyable.
Oui, quand tu regardes ça, mais l'important, c'est pas le zéro, l'important, c'est le 100%.
Exact, c'est ça qui arrive.
C'est ça. Tu sais, dans le fond, plus de zéro. Puis dans le fond, c'est toi qui as signé en bas du contrat, là, tu sais. Écoute, parlant de vacances, j'ai vu passer cette semaine, Jean-François, un post, un statut de Mike Bailey, Speedball, qui disait qu'il était pour participer à la croisière de Chris Jericho. Et là, je me suis dit, OK, il y a beaucoup de... Là, on est en pleine vacances au Québec. Il y a beaucoup de gens qui connaissent les croisières, donc ils ne connaissent pas. Mais la croisière de Chris Jericho, et je pense que toi, tu en as déjà fait une.
Oui, j'ai fait la toute première, en fait, avec M. Pat Patterson. Donc, Pat Patterson, qui est comme une légende. Là, je ne sais pas si des Québécois qui ne connaissent pas Pat Patterson, ça me surprendrait. Si vous ne le connaissez pas, achetez son livre en anglais écrit par notre confrère ici, Bertrand Hébert. Informez-vous sur Google, mais je vous insiste à acheter son livre. Mais par contre, c'est une croisière vraiment merveilleuse, Marc, là, la croisière de Chris Jericho. Là.
Mais, tu sais, premièrement, c'est une croisière qui part de où? Est-ce qu'elle part de New York? Est-ce qu'elle part de la Floride, Fort Lauderdale, Miami? C'est où le départ?
Bien, juste pour t'expliquer, il y a plusieurs départs, comme tu dis, il y a plusieurs ports à bateaux possibles pour des bateaux de croisière parce que c'est énorme, là. C'est une énorme capacité, c'est grand. Les gens ne savent pas à quel point c'est énorme, les compagnies de croisière, bien, ceux qui n'en ont pas fait, du moins. Moi, la première fois que j'en ai fait une, je pensais que ça allait être plate, puis ça ne l'était pas. Puis c'est la croisière part du même port où on est parti lors de ma première croisière, c'est-à-dire Miami. Donc, c'est une croisière qui part de Miami, fait, je pense, cette année, Nassau dans les Caraïbes, et ensuite revient à Miami. C'est une croisière d'environ 4 jours.
Puis t'arrêtes à une île?
Oui, une île. Puis le reste, c'est des parties lutte sur la mer. Parce que quand on fait une croisière, ceux qui sont habitués dans les croisières, vous savez qu'il y a des fois des journées qu'on fait uniquement voyager sans être accosté. Mais la croisière de Jericho, c'est principalement ça. C'est-à-dire, on voyage, on fait une île et ensuite on voyage pour revenir à Miami.
Et dis-moi, pourquoi Jericho est associé à ça? Sais-tu?
Ben Chris Jericho, il trippe premièrement sur les concepts. Chris Jericho, premièrement, se réinvente. Il y a tout le temps eu exemple la croisière de Kiss. Tu sais, le Kiss ont été des avant-gardistes pour faire des croisières. Chris Jericho...
Des croisières et des maquillages.
Exactement, oui. Puis Chris Jericho s'est déjà maquillé, donc hein, tout est dans tout. Donc, Chris Jericho a vu le concept puis il a voulu réinventer une portion de la lutte professionnelle en faisant sa propre croisière. Et je te le dis, Marc, ça marche. Ça marche à chaque fois que Chris Jericho parle d'une prochaine croisière, les gens s'enlignent pour faire partie des acheteurs, des locataires d'une cabine de croisière.
Et il en fait combien par année?
Il en fait une par année, c'est annuel, puis c'est à chaque mois de février ou à peu près. Moi, je pense que c'était au mois de février, la toute première croisière. La toute première croisière, Chris Jericho ne faisait pas encore partie de la All Elite Wrestling. Il a fait affaire avec la Ring of Honor, ROH, qui, étrangement, appartient maintenant à Tony Khan de la All Elite Wrestling. Mais la première croisière, il a fait affaire avec la Ring of Honor pour le ring, puis il fallait le solidifier, le ring. J'étais là en personne, puis j'ai filmé ça, j'ai ça dans mes archives personnelles. Ils ont utilisé des gros barils remplis d'eau, remplis de sable et remplis de plusieurs matières lourdes comme ça qu'ils ont entreposées en dessous du ring pour être sûr que le ring ne bouge, pour être sûr que le ring ne bouge pas. Parce que des fois, c'est risqué. Toi et moi, on le sait. Une croisière, ça bouge pas vraiment. T'sais, on n'a jamais vraiment de nausée sur une... Mais ça peut exister des journées que ça bouge, que les vents sont forts, etc. Mais il fallait solidifier le ring pour être sûr que durant un combat, que le ring bouge pas, que ce soit sécuritaire pour les spectateurs également. Puis, tout est là. C'est-à-dire, le DJ est à côté. On a la traditionnelle entrée des lutteurs. Il y a aussi de la mezzanine. Donc, ça fait partie, tu sais, où on installe normalement, où les piscines sont installées, où on installe normalement les écrans de cinéma. C'est là qu'est le ring de lutte professionnelle parce que c'est un événement extérieur. Ce n'est pas dans le théâtre, ce n'est pas à l'intérieur, c'est vraiment à l'extérieur.
Fait que sur quatre jours, il y a comme un gala de lutte?
Ah, il y en a plusieurs à chaque journée, Marc. Là. À chaque soirée.
Il y a combien de lutteurs qui participent à ça?
Et il y a beaucoup de lutteurs de la All Elite Wrestling. Dire un nombre...
Que ce soit All Elite ou n'importe qui...
Oui, donc il y en a beaucoup... Parce que ça change à chaque année, dépendamment de qui Chris Jericho fait venir. Exemple, la première année que Chris Jericho a fait affaire avec la All Elite Wrestling, Dynamite provenait de la croisière de Jericho. Puis là, pour des questions de satellite, quoi que ce soit, Tony Khan a décidé, OK, donc on ne peut plus faire ça parce que c'était préenregistré. Question de vent également, c'est le vent, le facteur vent. Donc, il fallait s'ajuster. Donc, Tony Khan a dit non, c'est trop risqué. Donc,
Mais il n'y a pas 3-4 lutteurs, il y en a plus, là.
Il y en a plusieurs. Il y en a une cinquantaine de lutteurs environ, dont que celui que tu parlais, notre Québécois, la star mondiale, un des meilleurs lutteurs au monde, Mike Bailey, ainsi que nos Québécois qu'on connaît de la All Elite Wrestling 2.0, Angelo Parker et Matt Ménard. Puis d'ailleurs, Matt Ménard, on a habité longtemps ensemble lorsqu'il était ici à Montréal. Quand que je partais en croisière, que ce soit avec toi ou avec d'autres personnes, je me disais tout le temps « Ah, jamais je ferai de croisière, ça a l'air pour les personnes plus âgées. » Puis en fin de compte, là, il a fait la dernière croisière de Chris Jericho, puis est tombé en amour avec ce concept-là. Puis aussi parce que le fait que les fans peuvent aller les voir. Puis Matt Ménard, je ne sais pas si certains Québécois à l'écoute le connaissent, il aime être entouré de fans. Tu sais, il y a des lutteurs qui n'aiment pas ça, mais lui, il adore être entouré de fans. C'est le moment idéal pour un fan de voir des lutteurs au buffet, au restaurant, quoi que ce soit. Puis aussi dans des séances d'autographes officielles et dans des podcasts, parce qu'il n'y a pas seulement des galas de lutte.
Écoute, il nous reste à peu près une minute. Sur 100% des gens qui sont sur le bateau, combien qu'il y en a qui sont là pour la lutte? Hein? 15-20%?
Je te dirais 100%, Marc, parce que c'est pas comme une croisière que tu penses. Exemple, on reçoit des fois des promotions, une croisière country, quoi que ce soit. Ça, c'est une minime portion des gens qui sont là pour la portion country. Mais la croisière de Jericho, c'est comme un peu la croisière de Kiss l'était, c'est-à-dire c'est 100% du bateau. Et c'est pas une pub, là, j'insiste, là, aujourd'hui, qu'on fait. Là.
Mais c'en est une aussi. Là.
Ça en est une. Oui, on en parle. Donc, c'est une pub indirecte parce que c'est pas une pub directe parce que c'est pas Chris Jericho qui l'a demandé ou ça gagne. C'est parce que c'est déjà guichet fermé, c'est sold out. Là. Grâce aux gens qui étaient là auparavant, donc eux autres, ils ont une pré-vente. Et la première journée de la croisière de 2024, ça a été sold out en une seule journée, Marc.
Wow, je suis assommé. Je ne pensais pas que c'était ça. Ah, ben, ça doit être cool. Puis je pense que tu m'as déjà dit en terminant qu'il y avait des séances d'autographes, il y avait des podcasts, il y avait toutes sortes de choses qui étaient organisées, c'est ça?
Tout ce qui est relié à la lutte, tout ce qui est possible sur un bateau de croisière a lieu. Les séances d'autographes, des fois, ça peut être long, le line-up, mais rendu aux lutteurs, c'est comme dans un Comic-Con, je dirais. Là. Les lutteurs, les lutteuses prennent leur temps pour parler aux fans et pour prendre les photos.
Écoute, Jean-François, c'était fort intéressant. J'espère un jour vivre ça et je te souhaite, toi, de le revivre une seconde fois. Merci de nous avoir parlé des croisières Chris Jericho.
Hey, salut, là.
Ici Michel Letourneur. Vous écoutez mon ami Marc Blondin au BPM Sport 91.9.
Nous sommes de retour pour la dernière portion de ce podcast sur BPM Sport 91.9 Montréal. Marc Blondin avec Handsome GF, ou devrais-je dire Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958, Self-Proclaimed Legend.
Attention à ton cœur, Blondin, je suis pas sûr que ça, tu vas survivre à ça, là.
Ben oui. Hey, c'est l'épisode 124.
Wow, le temps passe vite.
C'est fou. On prépare possiblement sous peu, à l'automne, un podcast live devant public.
Wow! Hey, ça va être le fun. On va pouvoir interagir directement avec tous les fans qui nous plantent sur le groupe. J'espère que Gaétan Julien va être là pour venir me planter sur mon veston Léopard.
Ouais, mais lui, il part de Québec. Pas évident. Faudra en faire un à Québec.
Et j'espère que nos deux plus fidèles auditeurs, Philippe Leclerc et Steve Charette, vont être là. Ils n'ont pas le choix de se présenter si on fait un podcast live. On les salue.
Ton bon ami, Walter Chaillé également.
Ben oui, écoute, on les salue tous, ils sont sûrement à l'écoute.
Ce que les gens ne savent pas, c'est que Handsome écoute la chronique de Walter Chaillé pour être motivé quand il s'entraîne. C'est quelque chose.
Ouais, m'avez-vous vu le body?
Ouais, on a vu les couleurs aussi.
Bon, hey, pour le prochain bloc, on délaisse les vacances un peu. On voulait parler de lutte féminine parce que les codes d'écoute en ce moment sont assez incroyables pour... tous les segments qui incluent les femmes. Marc, toi, quand tu as commencé dans le business, il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup de matchs de femmes. Comment s'est aperçu backstage ce volet-là?
Écoute, d'abord, tu sais, comme les gens le savent probablement, j'ai commencé en 1986. Comment je pourrais dire ça? Est-ce que je peux dire qu'un combat de lutte féminine, c'était une attraction spéciale? Un buffer? C'était pas... M'a dit les vraies affaires, là, c'est là que tu allais à la toilette ou c'est là que tu allais chercher un hot dog. C'est ceux qui étaient dans le public. Là. C'était pas ce que c'est aujourd'hui. Là. C'était pas Charlotte et Rhea, un combat
incroyable.
C'était pas ça du tout dans ce temps-là. Dans le backstage, il faisait partie de la famille, ça c'est correct, mais il n'était pas vu. Comme des grandes vedettes ou des grandes athlètes comme aujourd'hui. Oh, oui. C'est deux mondes.
Puis ça va être intéressant avec notre chroniqueur Pat Laprade, que tu as réalisé l'entrevue avec lui. Il nous parle des cotes d'écoute de lutte féminine à la WWE en ce moment, comme je disais tantôt, qui sont vraiment extraordinaires.
Oui, c'est comment je pourrais dire ça? Spécial.
Spécial. Donc sans
mais,
plus
mais tard... c'est, ouais, c'est vraiment, vraiment, je pense. Que la lutte féminine aujourd'hui, entre autres à la WWE, avec les lutteuses qu'ils ont, ils portent le flambeau, ils l'amènent en avant et ça donne de superbes combats et évidemment de superbes codes d'écoute. Donc, sans plus tarder, on écoute le Coyote Pat Laprade sur sa chronique WWE.
La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives.
On retrouve cette semaine sur le CIM notre ami Pat Laprade pour nous parler de WWE. Et à ma grande surprise, son choix de sujet, les cotes d'écoute pour la lutte féminine. Encore intriguant.
Exactement. La WWE, lors des... quelques dernières semaines, Marc, ont scoré très, très fort dans les segments impliquant des lutteuses. Donc, il y a 4 semaines de ça, Rhea Ripley et Natalia Rhea Ripley, qui est en ce moment, pour moi, la lutteuse la plus fun à voir aller au petit écran, peu importe la compagnie. Elle a pris tellement du galon dans ce clan-là du Judgment Day. Elle en est devenue la leader. Elle s'impose au micro. Dans le ring également, on l'a vu à WrestleMania contre Charlotte Flair, un des meilleurs matchs du week-end. Et là, elle lutte contre Natalia, qui a été un sacré bon match. Là, Natalia, on oublie que c'est une vétérane qui a du métier et qui est capable encore de livrer de très bons matchs. Donc, Ripley contre Natalia, qui a aussi impliqué là, dans l'après-match Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Ben, ce segment-là a été le segment le plus écouté lors du Raw de cette semaine-là, avec 1,95 million de téléspectateurs qui ont écouté ce segment-là, dont 675 000 dans la catégorie clé, là, le 18-49 ans.
Non, je ne te demanderai pas si c'est toi qui as raison ou si c'est Kevin Raphaël là, pour le 18.
Non.
Le 25-50, c'était tellement drôle, ce bout-là. Sur votre
oui, ben, c'est parce qu'au Canada et aux États-Unis, le démo clé n'a pas la même catégorie d'âge. Aux États-Unis, c'est 18-49. Je crois qu'au Canada, c'est 25-54, quelque chose comme ça. Il faut croire que la population est plus vieille, jeune au Canada. Je ne sais pas trop. Bref. La semaine d'après, Becky Lynch avec Zoe Stark. Zoe Stark, qui est dans les histoires la protégée de Trish Stratus, a fait 1,923 millions dans sa... qui est encore une fois, avec 763 000 dans la catégorie clé, encore une fois, le segment le plus écouté à Raw. La semaine qui a suivi, Chelsea Green avec Sonya Deville, qui ont gagné, excuse-moi, les titres par équipe contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez, a fait 2 024 000.
Et ça te dit quoi, ça?
Ben, moi, ça me dit deux choses. Ça me dit de un, parce que si on regarde, là, c'est trois segments complètement différents. Le Ripley, Natalia, Becky, Zoe Stark, Chelsea Green, Sonya Deville, Liv Morgan, Raquel Rodriguez. Si ça avait toujours Raquel Gonzalez. Non, Rodriguez. C'est bizarre. OK.
Fais comme Kevin, appelle-la Raquel.
Raquel, exact. Et puis, si ça avait été la même fille ou la même rivalité, je t'aurais dit, OK, ben c'est la lutteuse, c'est la rivalité. Non. Là, moi, ce que ça me dit, premièrement, ça me dit qu'on positionne les segments féminins de la bonne façon du côté de WWE. La lutte féminine. Il y en aura toujours, surtout dans des compagnies comme WWE et AEW, par la force du nombre, il va en avoir moins que de la lutte masculine. Il y a moins de lutteuses que de lutteurs. Donc, la majorité du temps, sauf exception, bien évidemment, on va avoir plus de segments masculins. Mais c'est important, si tu veux mettre de l'avant ta division féminine, de les mettre à des bons endroits, au niveau pacing, au niveau du rythme du show. Et EW, c'est une chose qu'ils font terriblement mal.
Ouais.
Parce que souvent, le match va être très, très mal. Il va en avoir juste un, puis on en a parlé d'ailleurs sur notre podcast, Kevin et moi, ils annoncent souvent juste un segment féminin, un match. Et en plus, souvent, il est mal positionné.
Ou souvent, il coupe du temps en plus. Là.
En plus. Donc, ce que ça me dit du côté de WWE, c'est qu'on s'assure de les mettre à un endroit où ça va être bien écouté, soit après un gros segment, soit avant un gros segment, mais ce que ça me dit aussi, parce que c'est bien beau, les positionner, mais faut-il encore que les gens demeurent devant leur écran? Donc, ce que ça me dit également, c'est qu'il y a quand même une énorme ouverture du côté du fanbase, du côté des auditeurs de la WWE pour regarder ça, et ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit les lutteuses sont bonnes, soit les histoires qu'on présente sont bonnes. Parce que ça revient toujours à ça. Ça revient toujours au match, aux histoires. Ripley, c'est la lutteuse la plus populaire en ce moment du côté de la WWE. Je ne suis pas surpris. Becky Lynch, c'est une star, Becky Lynch, du côté de la WWE. Zoe Stark, on la book très, très bien avec Trish Stratus en ce moment. Et Chelsea Green, Sonya Deville, ça, c'est un peu plus surprenant. Mais c'est un match de championnat. L'histoire était bien montée cette semaine-là parce qu'on avait blessé, c'est encore une fois, Rhea Ripley est impliquée là-dedans. Elle avait blessé Raquel Rodriguez. Donc, Raquel Rodriguez arrive blessée. Là, tu te dis, OK, il risque de se passer quelque chose dans ce match-là. Il risque d'avoir un changement de titre. On le sentait venir à cause de l'implication de Rhea Ripley. Et ça a fonctionné, tu vois. Donc, à tous les niveaux, ce qu'on fait présentement avec la division féminine, ben, du côté de la WWE, on fait un sans-faute en ce moment. C'est ce qu'on fait. Et les codes d'écoute sont là pour le prouver.
Et la WWE, Pat, pourrait bien essayer d'entrer ça dans la gorge des fans. Si les fans le prenaient pas comme ils le prennent présentement, ça fonctionnerait pas. Donc, bravo.
Non, absolument. Puis on sait, la WWE, ce n'est pas toujours à l'écoute des amateurs de lutte. On le voit avec LA Knight, qui, à mon avis, mériterait un meilleur push qu'il a en ce moment, vu la réaction des fans, surtout dans les arénas. Mais en même temps, ce que ça me dit, c'est que de ce côté-là, les fans sont au rendez-vous. La WWE fait bien les choses. Puis tant mieux, parce que de voir quand même 8 femmes comme ça arriver à avoir les meilleures cotes d'écoute sur un show où il y a quand même, non, il n'y a pas Roman Reigns puis Jey Uso, mais il y a Seth Rollins, il y a Finn Balor, il y a Kevin Owens, il y a Sami Zayn. Le Judgment Day comme tel marche super bien. Et je ne t'ai même pas parlé de Rhea Ripley dans les autres segments de Judgment Day. Le Judgment Day score très, très fort. Rhea Ripley, elle est là régulièrement. Là. C'est vraiment là une des 3 plus grosses stars présentement à la WWE. Et puis, ben, c'est tant mieux.
Pat Laprade, merci beaucoup. J'ai hâte de lire ta suggestion de sujet pour la semaine prochaine. Bonne semaine, mon ami.
La semaine prochaine, on parle de SummerSlam, Marc.
Ah,
on n'a pas
génial.
Le choix. J'y serai à Détroit pour SummerSlam.
Génial. Ben, bonne semaine, mon Pat.
Salut, merci toi aussi.
La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives.
Toi, Blondin, là, on a parlé de vacances tout le long de l'épisode du podcast de cette semaine. Est-ce que tu pars en vacances avec ta tendre épouse Jazz?
Ah, écoute, Ansem, j'avais prévu prendre un petit 4 jours, pas beaucoup, là, 4 jours. Malheureusement, l'état de santé de mon beau-papa a fait qu'on a repoussé le tout. Là, il va mieux. Alors, on a recédulé notre journée chez Gilbert Delorme.
Oui.
Et c'est ça, ça va être la semaine du 7 août. Et on va en profiter pour aller voir vignobles et microbrasseries dans la région du lac Georges, un peu de shopping, tout ça. Et je vais avec des amis et Stephen Finn le vendredi, le 11 août, je me paye la traite, un gros tournoi de golf à Ottawa pour les amateurs de cigares et de golf. Fait que quelque chose de vraiment hot. J'ai entendu parler, j'ai bien hâte de vivre ça. Fait que ça va me donner un 5 jours là, vraiment décrocher un peu et de m'amuser.
Bon, puis écoute, je sais que dans tes temps libres, tu as écouté notre émission de Slammiversary. On a reçu le lien pour pouvoir l'écouter en français. Quelles sont tes impressions?
Ben écoute, c'est le fun de laisser la poussière retomber pour être capable après de c'est quand même près de 3 heures.
Ouais.
Alors, il faut que tu trouves le temps. Je l'ai trouvé, je l'ai écouté peut-être en 2-3 segments. C'était vraiment de bons matchs. Ceux qui ont manqué ça, vous avez manqué vraiment tout un événement de lutte Impact. Ouais. Nous deux, écoute... On a de l'air d'un vieux couple. ça roule. Le son était impeccable.
Ouais.
Les images aussi. Ce n'est que des bonnes nouvelles en vue du mois d'octobre pour Bound for Glory. On a très, très hâte. Encore une fois, je vous le dis, là, si ça vous tente d'être annoncé sur tous les réseaux sociaux, si vous voulez avoir votre nom, vous voulez commanditer notre événement, on vous en donne en route vers Bound for Glory. On va vous donner beaucoup de visibilité. Alors, ne vous gênez pas de me contacter ou de contacter The Handsome JF.
Lui-même. Écoute, Marc, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a au menu?
Ben, la semaine prochaine, Pat Laprade qui sera en route pour Détroit puisqu'il assistera à SummerSlam 2023 à Détroit. Il va pouvoir nous donner les détails, justement, de cet événement-là, nous en parler, toute l'ambiance qui tourne autour de ça. Et il y a quelques jours, notre ami Jean-François Kelly, la légende vivante, qui a osé boire une Bud Light aux États-Unis, était à l'événement de All Elite Wrestling qui a eu lieu, je crois que c'était à Albany. Alors, exact. Sûrement qu'on aura des nouvelles également de PCO. Là, on va se retremper là, parce qu'avec le mois d'août, même si l'été est loin d'être terminé, on sent que les roues de la machine, autant pour Simmania que tout ce qui se passe dans le monde de la lutte au Québec et professionnel, on dirait que ça on a un regain d'énergie et que ça repart pour la fin de 2023.
Hey, c'est bien dit ça, Marc. C'est ce qui conclut l'épisode de cette semaine. Et de quelle façon? On invite les gens à revenir nous écouter la semaine prochaine au même poste, à la même heure.
Ça sera l'épisode numéro 125 déjà. Je vous dis la semaine prochaine. Soyez-y, mesdames, messieurs!